Je viens de demander que ce soit à l'évangile selon Luc. Nous lirons quelques versets au chapitre 2. À partir du verset 25e. Et voici. Il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon, et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement, il ne vit le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple, et comme les parents portaient le petit enfant Jésus, pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. » Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira, et même une épée transpercera ta propre âme, en sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. » Et il y avait Anne, une prophétesse, fille de Phanuel de la tribu d'Aser, elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans depuis sa virginité, et veuve d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière, nuit et jour. Celle-ci, survenant en ce même moment, louait le Seigneur, et parlait de lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance. Nous allons la délivrance ou la rédemption. On sait, chers amis, que bien des essais ont été entrepris afin de présenter ce que l'on a appelé les 4 évangiles en un seul. Et est-ce une mesure intelligente? Elle procède sans doute d'un bon désir, mais elle est en opposition complète avec la pensée de Dieu, qui a voulu nous donner tout ce qu'il désirait nous faire connaître de son Fils en 4 tableaux bien distincts. Déjà annoncés dans l'Ancien Testament, lorsque nous l'avons quelquefois rappelé, nous l'avons entendu, dans le voile du tabernacle, notamment pour ne citer que celui-là, pour ne citer que cet exemple, ne parlons pas des 4 parfums qui constituent, des 4 drogues odoriférantes qui constituent l'huile de l'onction. C'est le même principe dans le voile, les 4 étoffes déjà à l'avance pour la foi, pour l'intelligence spirituelle. Rien que le nom d'une étoffe nous indique ce que le Seigneur serait dans chacun des évangiles présenté sous un éclairage différent, sous un éclairage particulier. On a dit, nous ne serons pas longs quant à ces particularités, quoiqu'elles soient très belles, on a dit que Matthieu démontre que Jésus est bien le Christ ou le Messie, c'est le même terme. Matthieu écrit pour les Juifs, et c'est lui qui va nous donner le plus grand nombre de citations de l'Ancien Testament pour prouver que ce qu'il présente est bien la vérité de Dieu, réalisée pleinement dans la venue de Christ, le Messie, le roi d'Israël. La généalogie qui commence par Abraham et par David. Nous avons donc dans l'évangile selon Matthieu, le fils d'Abraham, le fils de David, comme il était annoncé depuis le commencement. Marc, il dépeint, lui, la vie du serviteur parfait. Matthieu démontre, Marc, il dépeint la vie du serviteur parfait. Le mot-clé de cet évangile, c'est « aussitôt ». pas de généalogie. Nous n'attendons pas une généalogie d'un serviteur. Ce que nous requérons, c'est l'aptitude au service et les qualités dans celui-ci. Marc présente le Fils de Dieu, commencement de l'évangile de Jésus, le Fils de Dieu. Matthieu, fils d'Abraham, fils de David, nous retenons cela. Marc, le Fils de Dieu. Luc va nous décrire, lui, va nous décrire la vie, l'œuvre du Fils de l'homme. Nous y venons tout de suite. Jean, un caractère tout particulier, il est écrit beaucoup plus tard, et son évangile se distingue des trois synoptiques en ce qu'il place devant nous la gloire divine de notre Seigneur Jésus-Christ, qui en ces jours-là était déjà battu en brèche. Lui, il déclare, c'est ce qu'il dit dans son épître. Matthieu démontre, Marc, il dépeint, Luc, il décrit, et Jean, il déclare. Quatre évangiles, quatre récits bien distincts que l'Esprit de Dieu nous fait de la glorieuse personne de Christ, nous montrant tout ce que nous devons savoir de lui depuis sa naissance dans les tables jusqu'à sa glorification. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné le résumé, si nous pouvons ainsi parler, de ce que seraient les évangiles. Voici votre voix pour Matthieu. Voici mon serviteur pour l'évangile selon Marc. Voici un homme dont le nom sera germe pour l'évangile selon Luc. Et voici votre Dieu. Dieu annonçait déjà par les prophètes celui qui sera à la fois le Christ, le Messie, le serviteur, le Fils de l'homme. Et le Fils du Père, venant de la part du Père, pour révéler le Père. Luc est un étranger, c'est un grec, il n'y a pas de doute. L'Épître aux Colossiens nous donne un détail qui est significatif. Il ne fait pas partie des serviteurs de la circoncision ou de ceux qui étaient en relation liée à l'enceinte juive. Luc est un grec, un médecin bien-aimé qui a été le compagnon fidèle de l'apôtre Paul, et il écrit son évangile à un autre grec, un homme qui occupait un rang élevé dans la hiérarchie romaine. Il écrit à un homme qui s'appelle Théophile, mais l'honneur à qui l'honneur, il écrit le premier traité en lui disant « j'ai composé », en lui disant « je, puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit, eh bien, je veux aussi te rappeler, te relater, très excellent Théophile, tout ce qui doit être écrit par ordre et par l'inspiration. Luc ne revendique pas le fait qu'il est écrit par inspiration. Mais il n'y a pas de doute que les écrits qui étaient antérieurs à Luc, que plusieurs avaient entrepris de rédiger, étaient sans doute des récits sérieux, mais non inspiré de la vie, de la mort de Christ, de tout ce que nous devions savoir. Tandis que lui, il va nous donner ce traité, ce premier traité, il va nous le donner, conduit directement, entièrement par l'Esprit Saint. Il adresse donc à un homme qui occupe une place de très excellente dans la société romaine, cela veut dire un homme qui avait un grade assez élevé, peut-être à l'égal de Félix, le gouverneur, et cet homme va lire l'évangile selon Luc. Il va le lire de bout en bout. Que va-t-il découvrir? Il va découvrir évidemment que celui qui était si grand s'est anéanti, s'est abaissé jusqu'à naître dans une étable, petit enfant couché dans une crèche. Plus loin, il va entendre de la part de Luc le discours prononcé par le Seigneur, et que va-t-il lire? Au chapitre 17, et notre mémoire est fidèle. Il va lire que ce qui est haut estimé parmi les hommes, ce que les hommes recherchent avec tant d'ardeur, le rayonnement de leur personnalité, leur savoir, leur pouvoir, leur richesse, tout ce que l'homme estime dans ce monde comme étant une chose digne d'acquisition. Pour Dieu, qu'est-ce que c'est? Théophile va lire cela. Ce qui est haut estimé parmi les hommes, encore aujourd'hui, Jean. c'est une abomination pour Dieu. Cet homme n'a pas manqué d'être interpellé, d'être choqué par cette déclaration. Et sans doute, il aura fait à Luc certaines déclarations dont nous pouvons avoir la certitude en lisant le deuxième traité, c'est-à-dire le livre des Actes des Apôtres, que le même Luc va écrire. J'ai écrit le premier traité au très excellent Théophile, mais nous ne lisons plus le très excellent Théophile. Le très excellent est laissé de côté. Nous lisons seulement, j'ai composé le premier traité au Théophile. Sauf que nous pouvons dire qu'en lisant l'Évangile, cet homme a réalisé ce qu'il était devant Dieu. Finissons-en avec l'homme dont le souffle est dans ses narines. Il a compris la nécessité de la conversion, d'une vie nouvelle, ayant réalisé que l'homme en Adam est une histoire qui est terminée à la croix et sur laquelle Dieu ne revient jamais. C'est une question résolue définitivement. Sauf qu'il aura dit à Luc, désormais Luc, je suis seulement Théophile. Comment pourrais-je requérir un titre quelconque pour m'élever dans ce monde en présence de celui qui s'est abaissé jusqu'à la mort et à la mort de la croix? On a dit aussi plusieurs choses intéressantes sur les évangiles, mais nous ne pouvons pas trop nous attarder. Les deux premiers sont écrits par un apôtre et un serviteur qui n'avait rien de commun avec les douze. Marc n'est pas parmi les douze. Or, chose assez étonnante, si nous voulons connaître quand et où un fait ou un discours ont été présentés, c'est à Marc que nous devons faire appel. C'est lui qui écrit l'évangile le plus chronologique, le plus précis, à part une exception ou deux tout au plus. Alors que Matthieu a été présent à tout ce qui s'est déroulé dans la vie du Seigneur, Matthieu ne relate pas les choses par ordre. Il les présente de façon, on dit, dispensationnelle. Il les présente de façon à montrer par l'ensemble de son récit que Jésus est bien le Messie, celui qui devait inaugurer le royaume annoncé. Marc, lui, n'ayant pas suivi le Seigneur, n'étant pas là, ayant été par le surplus, vous le savez bien, un serviteur défaillant, car il est le neveu de Barnabas, qui était le compagnon de l'apôtre, et le Seigneur n'avait pas dit à l'assemblée d'Antioche, mettez-moi par Barnabas, Saul, et le neveu de Barnabas. L'Esprit Saint avait seulement cité Barnabas et Saul, ou autrement dit l'apôtre Paul. Mais Barnabas, ayant certaines inclinations vers Marc, son neveu, qui était un homme sans doute ne manquant pas de qualité, il a pris Marc avec lui. Lors de ce premier voyage, ce fut un échec pour Marc, perdant pied, étant décontenancé en présence de toutes les difficultés que ces voyages présentaient à l'époque, et d'autant plus que le monde était à l'œuvre pour enrayer l'œuvre de Dieu à laquelle Paul était attelé de façon si fidèle, Marc a rebroussé chemin et est retourné chez lui. Lors du deuxième voyage, Barnabas voulait recommencer l'expérience. Paul a dit non. Nous n'allons pas prendre avec nous un homme qui a été défaillant, nous lui rendions un mauvais service. Est-ce qu'il y avait de l'animosité dans le cœur de l'apôtre? Aucunement. Plus tard, il dira à Timothée, prends Marc et amène-le, car il m'est utile pour le service. Mais Paul aimait mieux Marc que Barnabas, qui était son oncle. Mais remarquez, chers amis, comment la grâce de Dieu est précieuse entre toutes. Défaillant, quand il sera relevé, le Seigneur va l'employer pour écrire l'évangile, le récit de la bonne nouvelle touchant le serviteur parfait. N'est-ce pas merveilleux? Aurions-nous jamais choisi Marc, qui avait été un serviteur défaillant, pour écrire la vie du serviteur parfait? Nous avons ensuite Luc et Jean. Jean est un apôtre, Luc ne l'est pas. Luc va nous donner un récit tout à fait particulier, car l'intention de Luc par l'Esprit de Dieu, c'est de parler à tous les hommes. C'est pourquoi il est un grec, et il s'adresse à un grec pour montrer que Dieu n'est pas le Dieu des Juifs seulement, mais que la grâce s'étend à tous les hommes. L'universalité de la grâce est affirmée dans l'Évangile selon Luc, et nous avons des paraboles dans Luc 15, par exemple, qui ne se trouvent que dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Jean aura un autre caractère, nous le savons bien. Nous l'avons dit tout à l'heure, Jean déclare que celui qu'il présente est bien le Fils du Père. Encore une petite remarque. Nous allons trouver de la part de ceux qui étaient présents dans des scènes de très haute valeur, de très haute importance, nous allons trouver par exemple Jean, Pierre et Jacques. Et Jean par exemple ne va nous donner aucune relation des scènes qu'il a vécues de façon privilégiée. Nous parlons de la résurrection de la fille de Jaïrus, nous parlons de la transfiguration et nous parlons de la scène à laquelle il a assisté, à un jet de pierre sans doute, de Gethsémané. Comment se fait-il que Jean ne nous rappelle pas ces choses si extraordinaires alors qu'il en a été témoin oculaire? Elles sont rappelées par Luc, elles sont rappelées par d'autres et avec des conditions tout à fait particulières. Est-ce que nous pouvons déduire que Jean, étant atteint par un grand âge, a perdu un peu la mémoire des choses? Ce serait nous tromper lourdement. Jean est doué d'une excellente mémoire. Si nous voulons savoir quelle est l'oreille de l'esclave qui a été coupée, quel est le nom de l'esclave, c'est Jean qui va nous le dire. Il s'est bien souvenu de cette scène. La nuit où le Seigneur a été livré, cette nuit lugubre dans laquelle il comparait, au cours de laquelle il comparait devant ce tribunal inique, il y a du feu allumé. Pourquoi y a-t-il du feu? Et avec quoi ce feu brûle-t-il? Jean nous donne des détails extraordinaires. Et il ne dit rien de scènes grandioses auxquelles il a assisté comme témoin privilégié. Pour nous dire quoi, cher ami? Que toute écriture est divinement inspirée. Les évangélistes ne se sont pas concertés pour dire, eh bien, toi tu vas écrire sous cet angle, moi je vais présenter ce caractère. Aucune concertation, pouvons-nous supposer une telle chose un instant. Mais chacun a écrit, conduit par l'Esprit de Dieu, pour que nous ayons quatre portraits, quatre tableaux distincts de la même et adorable personne. Venons-en maintenant à Luc, et encore au début de son évangile, quelque chose qui doit nous frapper. Nous avons donc dit, et c'est tout à fait fondé, c'est un étranger au peuple de Dieu, et il écrit à l'étranger, il écrit un étranger à un autre grec. Et c'est dans ce livre, dans son traité, que nous allons admirer la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu à ses promesses. C'est dans cet évangile selon Luc que nous avons le récit et l'histoire d'un petit résidu et les temps troublés de l'Ancien Testament et que nous retrouvons sur la scène au jour de Luc. Le petit résidu en présence duquel nous sommes placés dans le livre de Malachie, petit résidu qui se distingue d'une masse devenue insolente, devenue incrédule, devenue marquée par la dureté de cœur. Mais au milieu de cet état de choses, Dieu a toujours su distinguer, a su produire dans le cœur d'un certain nombre, petit nombre sans doute, Dieu a toujours pu produire des sentiments qu'il agrée et qui constituent ces personnes au milieu de la masse générale qui est frappée par la déchéance. Dieu a toujours pu produire quelques personnes qui maintiennent ses voies. C'est le caractère d'un petit résidu. Et comment s'exprime-t-il aujourd'hui comme autrefois? C'est ce que nous trouvons à Philadelphie, le respect de sa parole et le maintien de son nom. Tu n'as pas renié mon nom, le nom du Saint et du Véritable, et tu as gardé ma parole. C'est vrai dans tous les temps. Et ce petit résidu de Malachie, nous le retrouvons en scène dans les deux premiers chapitres de l'Évangile selon Luc. C'est de toute beauté. Et nous allons avoir, chers amis, chez ces personnes, dans un temps difficile, dans des conditions qui ne rappellent en rien la gloire du passé, nous allons trouver des caractères extraordinaires. Et que pouvons-nous dire, que pouvons-nous déduire en lisant attentivement leur histoire dans ces deux premiers chapitres? C'est que ces personnes de conditions modestes, n'attirant pas l'attention sur elles et rencontrant sans doute beaucoup de difficultés, ces personnes sont parfaitement heureuses. Car nous avons sept tableaux de ce résidu. Nous essayons d'en dire deux mots. Sept tableaux de ce petit résidu, et dans chaque tableau, nous entendons, dans chaque tableau constitué par quelques-uns d'entre eux, nous entendons chanter un cantique. Un cantique de toute beauté, et qui manifeste l'intelligence spirituelle dont ils sont privilégiés, qu'ils sont privilégiés de posséder, car la piété, l'attachement au Seigneur, chers amis, rend intelligent. Il n'y a pas d'intelligence spirituelle sans l'attachement au Seigneur. L'intelligence spirituelle ne découle pas d'une intelligence naturelle, elle découle des affections de notre cœur. Si vous voulez, nous allons, on ne peut pas ouvrir la montagne, vous savez. Merci beaucoup. Si vous voulez, nous allons citer rapidement ces cantiques, sans entrer dans tous les détails, mais vous les méditerez chacun pour vous-même. Dans le chapitre 1er, au verset 39, le premier cantique qui est chanté, c'est celui d'Élisabeth. Il est chanté par une femme. Retenons cela. Ne pensons pas que Dieu méconnaît les sentiments d'une femme. Ils lui sont aussi précieux que ceux qu'il trouve dans le cœur d'un homme. Disons, pour étayer cela, le message de la plus haute valeur, le message le plus prestigieux, le plus prodigieux qui a jamais été entendu dans ce monde, il a été prononcé par qui, par le chef des apôtres, comme on pourrait le dire, par Pierre, par une femme. Y a-t-il une déclaration plus élevée, plus glorieuse, plus riche que celle-là? Va, dis à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Exprimé en deux propositions, la relation si douce que nous allions connaître avec le Père et la position d'élévation incomparable que nous allions soutenir devant lui. Connaître Dieu comme le Père et le connaître comme notre Dieu, dans une position si élevée et dans une relation si douce. Pouvons-nous trouver quelque chose de supérieur à cela? Bien, c'est une femme qui a été l'instrument pour communiquer cette révélation. Premier cantique, chapitre 1er, verset 39, c'est Élisabeth qui va le chanter. Élisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint au verset 41, et elle s'écria à haute voix et dit: « Tu es bénie entre les femmes, béni est le fruit de ton ventre. » Elle s'adresse donc à Marie, dans le sein duquel l'Esprit de Dieu a opéré pour produire, pour amener sur la scène le Sauveur du monde. En entendant sa parente Marie, Élisabeth est remplie de l'Esprit-Saint, et elle dit: béni est le fruit de ton ventre. Arrêtons-nous sur cette simple expression. Où nous emmène-t-elle? Béni est le fruit de ton ventre. N'entendons-nous pas, chers amis, l'Esprit de Dieu nous dire dans le livre de la Genèse déjà: la semence de la femme te brisa la tête. Voilà la semence de la femme. Elle va paraître sur la scène. Rien en relation avec l'homme. C'est l'opération toute puissante de l'Esprit de Dieu qui a été à l'œuvre dans le sein virginal de Marie, et la semence de la femme est sur le point de paraître sur la scène. Béni est le fruit de ton ventre. Autrement, voilà la première déclaration, le premier cantique relatif à la semence de la femme. Trouvez-vous pas que c'est une marque d'intelligence extraordinaire? Le deuxième cantique, il est chanté par Marie, parce que nous ne pouvons pas trop nous attarder, puisque nous voulons parler un peu de Siméon. Où va-t-elle nous amener, elle? Eh bien, au verset 55, pour faire court, elle dira: pour se souvenir de sa miséricorde qu'il avait parlé à nos pères envers Abraham. Nous faisons pas le tout dans la révélation, et cette jeune femme, Marie, nous amène à Abraham, le dépositaire de toutes les promesses. Et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Parce que tu as fait cette chose-là, c'est-à-dire parce que dans le principe, et j'ai vu dans ton cœur qu'il y avait cette détermination, parce que tu as offert ton fils, eh bien, en ta semence, toutes les familles de la terre seront bénies. Parce que tu as fait cette chose-là, celle que je vais accomplir en perfection, et ta semence, qui est Christ, Paul nous le dit, la voici citée par Marie. Il a parlé à nos pères envers Abraham et envers sa semence à jamais. Semence de la femme, promesse à Abraham. Nous continuons, c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, au verset 67, qui remplit de l'Esprit Saint, va nous donner la note de ce troisième cantique. Et où va-t-il nous amener? Au verset 68, au milieu du verset, il a visité et sauvé son peuple, pour lui la chose est déjà faite. Bien que rien n'est encore accompli, la foi envisage les choses qui sont déjà accomplies. Il a visité et sauvé son peuple, il nous a suscité une corne de délivrance dans la maison de David. Semence de la femme, livre de la Genèse. Semence d'Abraham, dépositaire de toutes les promesses, livre de la Genèse. Maintenant, nous faisons un grand pas en avant dans l'histoire des fils d'Israël. Et Dieu introduit sur la scène, après la sombre histoire des Juifs, Dieu va introduire sur la scène par Samuel, comme Jean-Baptiste sera le précurseur du Seigneur, Dieu va introduire sur la scène le roi selon la grâce auquel il va répéter les promesses faites à Abraham et lui disant que ce sera un de ses fils, bien au-delà de Salomon et bien plus élevé de Salomon, que ce sera un de ses fils qui obtiendra la couronne du royaume, la couronne de la domination, non seulement sur Israël, mais sur toutes les nations. Vous voyez, semence d'Abraham, semence de la femme, Abraham, David, et nous pouvons continuer. Mais nous ne pouvons pas aller de l'avant. Vous chercherez, vous verrez que dans chacune des catégories, des sept catégories de personnes qui se trouvent là en scène, nous avons un merveilleux cantique chanté. Le dernier, c'est celui que nous avons dans cette femme Anne qui ne quitte pas le temple, qui loue le Seigneur et parle de lui. D'abord ce qui est dû au Seigneur et ensuite le témoignage rendu. Elle loue le Seigneur, c'est ce que nous avons à faire aujourd'hui. Le cantique de Anne, le dernier des sept cantiques, correspond exactement à ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Revenons maintenant, si vous voulez bien, à ce vieillard Siméon. Nous disons toujours un vieillard, mais nous n'avons pas la certitude que ce soit un vieillard après tout. La parole de Dieu ne semble pas l'affirmer. Mais nous revenons à Siméon, c'est un homme qui vit dans ces jours-là, et cet homme était juste et pieux. Nous devons nous poser la première question, pourquoi l'appelle-t-on Siméon? Nous savons bien que dans les familles israélites, on aimait donner le nom d'un ancêtre qui avait eu du relief, qui avait eu des qualités particulières. On aimait rappeler un nom prestigieux des ancêtres. Saul de Tarse, par exemple, qui rappelait Saül, le premier roi, fils de Benjamin. Mais si nous lisons l'histoire de Siméon, elle est loin d'être réjouissante, elle est loin d'être édifiante. Pourquoi les parents de cet homme juste et pieux, qui est très probablement né dans une famille pieuse, pourquoi l'a-t-on appelé de ce nom? Car quand on lit l'histoire de Siméon dans l'Ancien Testament, nous en avons dit deux mois hier, je crois, eh bien c'est un homme qui a laissé un très 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 misérable souvenir. D'abord avec son frère Lévi, il a été un homme violent, un homme cruel. Et quand nous arrivons dans la scène qui se situe dans la présence de Joseph, nous apprenons quelque chose de Siméon là. Quand ils se rendent compte, les frères de Joseph, 20 ans après leur forfait, quand il en sera des Juifs et des nations, 20 siècles après leur forfait, il faudra comparaître devant le vrai Joseph. Contraint par lui, il faudra que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, et tout genou se croira devant lui. Donc les frères de Joseph sont là. Maintenant, ils sont en train de se dire l'un à l'autre, eh bien Dieu maintenant nous a trouvés. Ce péché abominable que nous avons commis, il nous est redemandé. Et une voix s'élève au milieu d'eux, c'est celle de Ruben, l'aîné, et il leur dit, ne vous l'avais-je pas dit? Ah, il aurait voulu épargner son jeune frère. Il n'a pas été là sans doute lors de la conclusion de cet abominable marché, lorsqu'ils l'ont vendu pour 20 pièces d'argent. Il ne semble pas qu'il se soit trouvé là. Mais il avait essayé de sauver son frère. Et il l'avait fait déposer dans une citerne, espérant le sauver à l'insu de ses frères. Hélas, chers amis, petite parenthèse, Dieu ne se contente jamais de compromis. On ne peut pas traiter un compromis avec le mal. Ruben, l'aîné, aurait dû résolument prendre la défense de son jeune frère et imposer à ses frères de laisser retourner ce jeune homme vers son père, et soulignant l'abominable conduite qu'il voulait tenir envers lui. Hélas, Joseph s'en est allé. Joseph a été vendu, le voilà parti. Et Ruben, quand il revient que le jeune homme n'est plus là, il en est profondément affecté. Et il rappelle cette scène. Et il nous dit dans ce qu'il raconte, il nous fait connaître dans ce qu'il dit à ses frères, combien la scène a été déchirante. Parce que Joseph a supplié ses frères de l'épargner. Mais vous n'avez pas écouté la détresse de son âme. Son âme entra dans les fers. Ils ont été d'une dureté envers lui extraordinaire. Mais Joseph comprend ce qu'ils disent. Il l'ignore, il ne réalise pas qu'il comprend leur langue, sa langue maternelle. Alors Joseph a compris le rôle de Ruben, l'aîné, et il a à la fois compris le rôle de Siméon. C'est pourquoi il dira, bien, il aurait dû faire rester l'aîné, le plus responsable dans la famille, non, mais c'est Siméon qu'il fait rester en Égypte. Il a vu, il a senti, et il le sait maintenant par lui-même, que cet homme, en effet, est d'un caractère dur, un caractère trempé, insensible, et il veut briser le caractère de cet homme. Et nous savons que, hélas, cher ami, ce qui est cher et cher, nous ne trouverons pas pour Siméon la moindre bénédiction dans le chapitre 33 du livre de Deutéronome. Nous ne trouverons pas le nom de Siméon. Pour nous dire, bien que plus tard il aura sa part avec les 12 fils d'Israël, dans les... nous ne trouverons pas pour Siméon la moindre bénédiction dans le chapitre 33 du livre de Deutéronome. Nous ne trouverons pas le nom de Siméon. Pour nous dire, bien que plus tard il aura sa part avec les 12 fils d'Israël, dans les 12 fils d'Israël, mais pour nous dire dans ce contexte que la chair ne peut plaire à Dieu. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et Moïse n'a pas un mot de bénédiction pour Siméon. Alors nous pouvons nous demander, mais pourquoi les parents ont-ils appelé Siméon ? Ils ont appelé Siméon pour la bonne raison que son nom signifie entendu. Et la mère de Siméon est une pauvre femme qui doit supplier Dieu, elle est critiquée, elle est mal aimée de son mari, c'est une pauvre femme. Alors son recours, il est auprès de Dieu, et en vue d'amener sur la scène un fils, elle va supplier Dieu, et elle va l'appeler alors Siméon, Dieu entendu. Voilà donc certainement la raison pour laquelle les parents ont appelé Siméon, car ils ont dit dans un temps de ruine, quel qu'il soit, Dieu entend. Dieu n'est jamais dépassé, chers amis, par nos circonstances, soit individuelles, soit locales, soit collectives. Dieu n'est jamais dépassé par nos besoins. N'oublions pas cela. Alors, Dieu entendu. Voilà la signification de ce nom. Et voilà la raison pour laquelle ses parents lui ont donné ce prénom, ce nom. Le nom était Siméon et il était juste et pieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous pourrions trouver un certain étonnement à lire qu'il était juste. Or, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Comment se fait-il qu'il est juste? Il est juste de la même manière que Dieu a tenu Abraham pour juste. Car en nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, il n'y a personne qui soit juste devant Dieu. Il n'y a personne qui réponde à la pensée de Dieu, qui puisse se tenir devant Dieu sur le pied de ses mérites. Il n'y a pas de juste, il n'y en a pas même un seul. Mais, chers amis, la justice que Dieu donne, c'est une justice légale, une justice formelle, une justice fondée non pas sur des droits et des mérites que j'aurais acquis, mais sur la foi. Et la foi en la parole de Dieu qui nous conduit jusqu'à Christ et à son sacrifice. Bien, cet homme était juste, comme Abraham l'avait été, c'est-à-dire c'est un homme dont le cœur est habité par la foi des élus de Dieu. Et en même temps, il montre qu'il est juste par le fait qu'il est pieux. Autrement dit, il soutient des rapports de confiance et de crainte avec Dieu. Deux éléments qui sont constitutifs de la piété. Pas la crainte d'un esclave devant son maître, mais la crainte de déplaire à quelqu'un que l'on aime. Si j'ai une réelle affection pour quelqu'un, eh bien je veillerai à ne rien faire, à ne rien produire, qui soit de nature à troubler nos relations. Il était juste, il était pieux, il entretenait des rapports de crainte à l'égard de Dieu et tout à la fois de confiance. Voilà les deux caractères essentiels de cet homme. Juste quant à sa foi, et pieux quant à ses relations avec Dieu et avec qui que ce soit. La piété est utile à toute chose, dit l'apôtre, car elle a les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors, nous avons plusieurs caractères sur lesquels nous aimons nous arrêter un instant. Il attendait la consolation d'Israël. C'est un juste, il est pieux et il possède une espérance. Il y a beaucoup d'analogies avec ce que nous sommes maintenant. Nous avons aussi aussi été constitué juste, justifié par la foi, justifié par le sang. C'est Dieu qui justifie, la justice trouve son origine en lui. Et en même temps, nous attendons l'espérance, Épître aux Galates, l'espérance de la justice. Il était juste, il était pieux, nous avons aussi à marcher dans la piété selon l'Épître à Tite. La piété qui nous enseigne comment nous avons à marcher avec Dieu, avec nos semblables. Ainsi que Tite nous le rappelle, nous pouvons citer le verset qui est très important, qui est la ligne de conduite d'un croyant aujourd'hui. Dans le chapitre 2 de l'Épître à Tite, la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que renions l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sombrement, justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, il est juste, il est pieux, et il possède une espérance, il attend la consolation d'Israël. Quelle est cette consolation pour eux? C'est la venue du Messie. Chapitre 40 du prophète Ésaïe, après la sombre histoire de ce pauvre peuple, comment le Dieu va-t-il commencer dans ce chapitre 40, où il y a une coupure très significative entre ces deux parties d'Ésaïe. Chapitre 39 se termine par l'histoire d'Israël, illustrée par les Ézéchias, il ne reste rien de ce que Dieu a confié à ce peuple. Tout ce que tu possèdes, Ézéchias, tous les privilèges que je t'ai donnés, il n'en restera rien. Comment se termine l'Ancien Testament? Sur le pied de la loi, sur le pied de la responsabilité de l'homme. Quel est le dernier mot de l'Ancien Testament? C'est malédiction. C'est un mot terrible. Malédiction. Chapitre 39 du prophète Ésaïe termine l'histoire d'Israël moralement. Malédiction. Mais comment va s'ouvrir le chapitre 40 où il y a un changement de sujet qu'un enfant peut distinguer, peut discerner? Eh bien, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Premier verset du chapitre 40, c'est le Nouveau Testament. C'est la grâce de Dieu. Quelle différence avec la loi? La loi n'a rien à venir à la perfection. C'est un ministère de mort et de condamnation. Mais la grâce de Dieu, qui intervient dans la misère la plus profonde, pour sortir quelqu'un de la poussière, du fumier sur lequel il est sans ressources, pour l'élever et le faire asseoir avec les nobles de son peuple. Premier verset du chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple. Dites-lui que son iniquité est acquittée. J'ai trouvé le moyen, tout en maintenant les droits de ma justice, d'acquitter le coupable. Consolez, consolez mon peuple. Et la consolation, elle nous est dépeinte tout de suite. C'est Jean-Baptiste, le ministère de Jean-Baptiste est en toute lettre, et il annonce celui qui doit venir, celui dont il est le précurseur, dont il n'est que la voix. Il attendait la consolation d'Israël, il attendait le Seigneur. L'Esprit Saint était sur lui. Quelle différence avec nous? L'Esprit Saint n'est pas aujourd'hui sur nous, il est en nous. Et on crut à l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Ayant cru à l'évangile de votre salut, Éphésiens 1, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. C'est l'ordre que Dieu établit. Dès que nous avons cru à la personne et à l'œuvre de Christ, Dieu met son sceau sur le croyant. Le sceau, c'est la réalité que Dieu, dans laquelle Dieu nous trouve par rapport à lui, dans la position que nous occupons en Christ. C'est une question, le sceau, d'intelligence. Question plutôt d'assurance. Alors nous avons été oints, nous avons été scellés. Et nous avons été rendus participants des arts de l'Esprit. Donc, le sceau, c'est une question d'assurance. Quand le sceau de Dieu est mis sur quelqu'un, c'est que l'œuvre en lui est accomplie, et il sait, avec toute assurance, que le Seigneur est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs, au prix de sa mort sanglante sur la croix. L'onction que nous avons reçue, c'est l'intelligence des pensées de Dieu, et les arts, c'est une question de jouissance anticipée de l'héritage dont nous avons déjà reçu un acompte. Il attendait la consolation, l'Esprit Saint était sur lui. Pour nous, c'est différent, il est maintenant en nous. Il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement, il n'eût vu le Christ du Seigneur. Ici, nous devons nous arrêter un instant et nous demander quelle est l'analogie ou la différence avec nous. Donc cet homme, dans les qualités que nous venons d'essayer de souligner ensemble, il savait qu'avant sa mort, il allait être témoin d'une chose extraordinaire. L'Esprit Saint lui avait dit, il était enseigné par l'Esprit Saint, averti divinement, comme nous sommes enseignés par l'Esprit Saint, mais pas en dehors de la parole de Dieu, nous retenons cela. Ou sinon c'est du mysticisme que Dieu ne reconnaît en aucune manière. L'Esprit Saint nous enseigne sans doute, mais au moyen, par la parole de Dieu. Lui, il était averti comme dans l'Ancien Testament, par l'Esprit Saint. Et l'Esprit lui avait dit, « Eh bien, Siméon, tu ne verras pas la mort. Mais tu ne verras pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Autrement dit, cet homme pouvait dire, « Moi, je sais que je vais mourir. Mais avant de mourir, je vais voir le Christ du Seigneur, avec l'astérisque, c'est-à-dire le Messie venant de la part de l'Éternel, de la part de Jéhovah. Donc vous voyez comment cet homme pouvait parler. L'Esprit Saint m'a informé, m'a averti que je vais mourir un jour, mais avant de mourir, je vais voir le Christ, je vais voir celui dont tous les prophètes ont parlé. Y a-t-il une analogie ou un contraste avec nous? Quand on a lu pour la première fois dans l'Assemblée à Corinthe, cette lettre de l'apôtre, le lecteur de l'assemblée, dans l'Assemblée s'est levé et a dit, voilà, nous allons donner lecture en une ou plusieurs fois sans doute, la lecture de la lettre que Paul nous écrit, de la part de Dieu, lettre inspirée. Et arrivé au chapitre 15, le lecteur lui-même aura été des plus surpris. Voici, je vous révèle un secret. Je vous dis un mystère. Autrement dit, un mystère maintenant, c'est une chose révélée. Je vous dis ce qui était un mystère jusque-là. Je vous éclaire, je vous ouvre le secret relatif à ce mystère qui était tout à fait dans l'Ancien Testament impénétrable. Voici, je vous dis un mystère où je vous révèle un secret. Nous ne nous endormirons pas tous. Quel effet, chers amis, dans cette assemblée, lorsqu'on a lu pour la première fois, nous ne nous endormirons pas tous. Quel effet au siècle dernier, quand nos chers devanciers, dans de grandes réunions où on lisait la parole, ont découvert comme tout à nouveau cette vérité qui était tout à fait perdue du retour du Seigneur, de la résurrection des saints, de la préalable à notre enlèvement, de la venue du Seigneur comme l'on pouvait attendre, que l'on peut attendre d'un moment à l'autre. Voici, je vous révèle un secret, nous n'allons pas tous nous endormir, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, le temps d'avaler, et nous sommes avec le Seigneur. Quand on a lu cela pour la première fois, vous pouvez vous imaginer l'effet produit, comme au siècle dernier, les larmes coulaient abondamment, émus que l'on était, étreint que l'on était, en réalisant cette vérité du retour du Seigneur. Hélas, chers amis, nous y sommes accoutumés. Et quel est l'effet produit aujourd'hui par la connaissance que le Seigneur vient? C'est une question que nous pouvons nous poser, que celui qui parle doit se poser à lui-même, bien entendu. Mais vous voyez, pour Siméon, lui, il savait qu'il allait mourir, mais qu'il allait voir le Seigneur auparavant. Pour nous, nous allons voir le Seigneur, mais nous ne mourrons plus. Voilà la grande différence. Dès que le Seigneur vient, c'en est fini de la mort. Et en nous en allant, nous avons nos écrits, mort, où est ta victoire? Te voilà vaincu définitivement, englouti que tu seras. Satan sera brisé sous nos pieds. La grande différence avec Siméon, croyant de l'Ancien Testament, c'est que nous allons partir au ciel sans passer par la mort. Ce n'est pas la mort que nous attendons. Un croyant qui s'en va, qui déloge, il a une espérance. Il y a une espérance dans la mort, mais la mort n'est pas notre espérance, c'est la venue du Seigneur. Un cher serviteur de Dieu qui a visité votre pays beaucoup de fois, comme le nôtre, disait avant de s'en aller, alors qu'il était si fatigué, que sa famille était autour de lui, et ses derniers moments étaient comptés, on s'en rendait bien compte, et lui aussi, il pouvait dire, mais remarquez, je n'attends pas la mort, j'attends le Seigneur. Jusqu'au dernier souffle de sa vie, il attendait le Seigneur. Voilà l'espérance chrétienne. Il avait averti qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement, il ne vit le Christ du Seigneur. Pour nous, chers amis, peut-être ce soir, nous allons voir le Seigneur. Et la mort ne sera plus. Sera engloutie à tout jamais. Nous allons partir. Et sans se rappeler des choses présentes, toutes choses seront faites nouvelles. Alors, il vient par l'esprit d'entendre encore quelques mots sur ce magnifique sujet. Il vient par l'esprit d'entendre, et comme les parents portaient le petit enfant Jésus, pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prend entre ses bras et bénit Dieu. On peut voir cette scène admirable, admettons que ce soit un vieillard, comme on le dit souvent, et qui prend ce petit enfant dans ses bras. Que va-t-il faire, cher ami, en présence de ce petit enfant? Nous savons bien qu'un vieillard en Israël remplissait le rôle de patriarche, le rôle du prophète, le rôle du père, et il pouvait bénir ceux avec lesquels il était en contact, comme Jacob bénissant ses fils. Et il semblerait qu'il essayant que ce vieillard, ce petit enfant, s'y réjouit de voir ce petit enfant, et il dira maintenant que j'ai vu, que j'ai vu le Seigneur apparaître, venir dans ce monde. Je ne désire plus vivre, Seigneur. Reprends-moi. Pour moi, ma joie, elle est complète. Je n'ai plus rien à attendre dans ce monde. J'ai vu le Seigneur. Et il prend le petit enfant dans ses bras et il va le bénir. Ah, chers amis, vous voyez l'intelligence de cet homme. Il se garde bien de bénir le petit enfant. Pourquoi ? Parce que le moindre est béni par celui qui est le plus excellent. Or, qui est le plus excellent ici ? Cet homme pieux, cet homme juste, qui a tant de qualités, ou le petit enfant ? Il bénit les parents. Il a bien le droit de bénir les parents pour la grâce que Dieu leur a faite et faire reposer sur eux les souhaits les plus précieux de son cœur. Il bénit les parents, mais il ne bénit pas le petit enfant. Vous voyez la différence ? Il bénit Dieu. Il rend grâce à Dieu pour le don qu'il fait de son fils, mais il ne bénit pas le petit enfant. Mais au contraire, il bénit les parents, tout en bénissant Dieu. Et il dit maintenant, verset 29, « Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, et exactement celui qui opère le salut, celui qui est l'auteur du salut. J'ai vu ton salut, lequel tu as préparé. » Remarquons l'expression, la manière de présenter les choses par Siméon. Nous découvrons là une marque d'intelligence extraordinaire. « Car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé pour la gloire de ton peuple Israël. » Est-ce cela que nous lisons ? Nous lisons bien au contraire « lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples. » Et jamais un juif, lorsqu'il parlait, des nations ne les auraient mises sur le même pied qu'Israël, et encore moins les placer avant Israël. On sait en quelle haine l'apôtre était tenu de par ses collégionnaires juifs. Hôte de la terre, un pareil homme, il n'aurait pas dû vivre. Qu'il nous annonce l'évangile à nous, juifs, nous l'admettions encore dans une certaine mesure. Mais qu'il parle que Dieu a visité les nations, et que Dieu maintenant va étendre sa faveur sur les nations, comme sur nous. Mais c'est impensable, c'est intolérable, c'est un renégat cet homme. Il faut qu'il meure. Là, l'orgueil national des Juifs était tel qu'il ne peut pas supporter qu'un homme des nations reçoive une quelconque faveur de la part de Dieu. Il y a dans notre introduction une phrase intéressante écrite par notre traducteur sur Jonas, et nous le lisons à la page, ça vaut la peine de lire cette phrase, à la page 21 en chiffre romain de notre introduction, vers le tiers de la page en remontant depuis le bas. Vous voyez au bout d'une ligne à droite, vous avez Jonas, à peu près au tiers de la page, et nous lisons ce petit paragraphe. Jonas a un caractère spécial. Si l'Éternel avait choisi Israël pour être un peuple à part, afin de conserver la connaissance de son nom sur la terre, il n'en est pas moins le Dieu des nations, et un Dieu de bonté et de miséricorde. Alors, nous avons une phrase importante. Lorsque les privilèges que Dieu accorde obscurcissent la connaissance de ce qu'il est en lui-même, la possession de ces privilèges donne naissance à un dur esprit de parti. Cela s'est vu clairement chez les Juifs. Un dur esprit de parti, n'accordant rien aux nations, disant « Goïm, ces chiens de nations, ils n'ont droit à rien, nous sommes le peuple de Dieu. » Mais que Dieu puisse faire grâce aux nations, c'est inacceptable. Un dur esprit de parti, cela s'est vu clairement chez les Juifs. Et voilà, chers amis, contrairement à tout ce que les Juifs pensaient dans leur orgueil naturel. Vous voyez comme la grâce de Dieu transforme le cœur de quelqu'un. Que dit-il ? Le salut, lequel, en parlant du salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples. Verset 32, une lumière pour la révélation des nations. Révélation des nations qui étaient dans les ténèbres du dehors, et la gloire de ton peuple Israël, peuple abaissé, mais à qui Dieu va donner la gloire demain. Vous ne pouvez pas trouver un résumé plus précis, tout en étant succinct de toutes les voies de Dieu. C'est ce que Jacques dira déjà dans le Concile de Jérusalem, anticipant les révélations que Paul allait nous donner. « Je ne veux pas faire que vous soyez ignorants à l'égard de ce mystère. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël, mais afin que la plénitude des nations puisse entrer. » Voilà déjà cet homme, bien avant l'apôtre Paul, qui nous introduit dans la connaissance, dans l'essence même de ce grand mystère. La révélation des nations et la gloire de son peuple Israël. Et ici, nous nous permettons d'ajouter une petite anecdote. nous l'avons déjà quelquefois dite, mais elle est bien en rapport avec ce que nous avons ici. En Afrique, lorsqu'on visite ses amis, on va d'un village à un autre où ils ont construit ce qu'on appelle des locaux, un local, mais c'est une hutte assez grande, suivant les besoins, une hutte misérable. Et il y a ce qu'ils appellent une porte, avec des pieux mal écarés, mais enfin il y a une porte et on lit dans un endroit, à droite de la porte, ils ont un petit écriteau et on lit un nom et 3-16. Ah, on se dit, il n'y a pas de doute, c'est Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et de l'autre côté de la porte, on voit un nom encore, et deux chiffres, un chapitre et un verset. Alors on dit, et cela, qu'est-ce que vous avez voulu écrire sur ce petit panonceau? Eh bien, chers amis, on est émerveillés, on est touchés profondément. On nous dit, voilà, le salut est venu, de la part de Dieu, il avait préparé pour tous les peuples une lumière pour la révélation des nations. Ces gens qui vivent dans des conditions si misérables, ils ont compris la position que Dieu leur donne, lumière venue dans ce monde pour la révélation des nations, au banc desquels ils se trouvent placés. Mais ils savent qu'un jour, l'accomplissement de ce que Siméon nous a dit sera réalisé. Car il y en aura autour du trône, vous l'avez remarqué, de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, peuple et nation. D'abord, Dieu commence par les plus défavorisés, ceux qui ont été vendus comme du bétail, ceux qui vivent encore dans un état si misérable, ce sont ceux-là qui sont cités les premiers pour être autour du trône. Et ils le savent, d'où la grande joie de leur cœur et le courage qu'ils puisent pour aller de l'avant dans les circonstances les plus misérables que l'on puisse imaginer. Une lumière. Mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, quels qu'ils soient, quelle que soit la couleur de leur peau, devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations. N'est-ce pas un merveilleux cantique, cher ami? C'est donc le sixième cantique que nous trouvons dans la série. Il est relatif aux voix de Dieu envers les nations et envers son peuple. Et enfin, Siméon bénit Marie et bénit les parents, et il dit à Marie, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs. Et nous savons bien comment les choses se sont passées et comment le Seigneur les avait annoncées. Il se présente comme étant une pierre contre laquelle les Juifs allaient trébucher, mais une pierre qui tombera sur eux plus tard. Ils sont tombés sur la pierre, et la pierre elle-même tombera sur eux dans un jour à venir. C'est donc ce que nous avons là. La chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et un signe que l'on contredira. Est-ce que les choses ont changé, malgré le monde christianisé, malgré l'amélioration des conditions matérielles, malgré la découverte de tant de choses extraordinaires dues au génie de l'homme? Est-ce que le fond du cœur est-il changé? Christ est tout aussi bien aujourd'hui méprisé par le monde qu'il l'était dans ces jours-là. Il est mis pour la chute, le relèvement de plusieurs en Israël, un signe que l'on contredira, et même une épée va transpercer ta proclame. Et quelqu'un dit, nous avons cette réalisation annoncée par le prophète Jérémie, car ce n'est pas le Seigneur qui dit cela. C'est en la bouche de Marie, qui est une image de résidu, que nous pouvons placer ces mots. Voyez, s'il est une douleur comme ma douleur, à moi que l'Éternel a affligé au jour de ma détresse, je crois. Voyez, c'est une douleur comme ma douleur. Le Seigneur n'a pas sollicité la pitié de qui que ce soit. Pleurez sur vous, dit-il, mais non pas sur moi. Mais Marie peut dire, voyez, c'est une douleur comme ma douleur. Et au pied de la croix, le Seigneur va réaliser avec une tendresse digne de lui l'épée qui transperce son âme, pour lui dire avec une grâce qui s'adresse à tous, qui se déploie vers tous, qui est toujours aussi pleine de ressources aujourd'hui, il va dire à cette pauvre femme, voilà ton fils. La confiant aux disciples bien-aimés, et aux disciples bien-aimés, voilà ta mère.